France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Un moment historique et polémique ce soir à l'ONU. Emmanuel Macron va reconnaître l'État de Palestine au nom de la France. Israël promet des représailles et n'exclut pas d'annexer la Cisjordanie. Le président français qui a durci le ton avec l'État hébreu alors qu'il proposait une coalition militaire internationale contre le Hamas. En France, une cinquantaine de mairies de gauche ont hissé le drapeau palestinien aujourd'hui. Page spéciale dans ce journal avec Thibault Lefebvre à Jérusalem, Louise Baudet à New York et Adrien Toffolé à Paris. Quand des patrons s'opposent aux patrons, le Centre des jeunes dirigeants estime nécessaire de poser des conditions aux aides de l'État accordées aux entreprises. Le MEDEF réclame au contraire un soutien public inconditionnel. Il est possible de prêter la tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni, affirment les autorités face à la polémique grandissante sur les dangers d'un tel déménagement. Mais une nouvelle étude va être commandée pour évaluer les risques. L'isolement d'Israël sur la scène mondiale va s'accentuer ce soir lorsqu'une dizaine de pays supplémentaires vont reconnaître l'État de Palestine à l'ONU. Le discours d'Emmanuel Macron est particulièrement attendu car c'est la France qui a lancé cet été ce nouveau mouvement de reconnaissance pour répondre aux représailles israéliennes sur Gaza. Hier, quatre pays occidentaux ont déjà franchi le pas. Le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal, ce qui porte pour l'instant à au moins 145 sur 193 États membres de l'ONU, le nombre de pays qui reconnaissent désormais l'État palestinien. Israël a promis de riposter à cette vague. Benjamin Netanyahou a répété hier qu'il n'y aurait pas d'État palestinien. Et le Premier ministre israélien ne contredit pas ceux qui, au sein de son gouvernement, veulent annexer la Cisjordanie. Thibault Lefebvre nous appelle de Jérusalem.
Ce qui est sur la table, c'est un plan d'annexion de la Cisjordanie. Ce qui n'est pas décidé, en revanche, c'est son ampleur. La position maximaliste consiste à s'accaparer 82% des territoires et laisser aux Palestiniens six grandes villes isolées les unes des autres. C'est la proposition de l'extrême droite et du suprémaciste Bezalel Smotrich. Plus mesuré, le plan proposé par le conseiller de Benjamin Netanyahou, Ron Dermer, est déjà discuté avec les Américains qui envisagent l'annexion de la vallée du Jourdain. Il y a un double enjeu, d'abord économique, puisque de nombreux colons israéliens exploitent déjà l'eau du fleuve, et sécuritaire, car la Cisjordanie partage une frontière avec la Jordanie. Pour le moment, Netanyahou joue la montre. Il décidera, dit-il, à son retour des États-Unis la semaine prochaine, après avoir rencontré Donald Trump. L'enjeu de cette réunion, c'est l'héritage diplomatique du président américain dans la région, parce qu'en cas d'annexion, les Émirats arabes unis menacent en effet de sortir des accords d'Abraham et donc de rompre leur alliance avec Israël.
Thibault Lefebvre, correspondant à Jérusalem. Nous ne devons pas nous sentir intimidés par le risque de représailles israéliennes, insiste le patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui dénonce la poursuite de la guerre à Gaza et ce qu'il appelle l'annexion insidieuse de la Cisjordanie. Revenons à présent sur cette décision historique d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine. Un grand jour pour la paix et une victoire diplomatique majeure pour la France, selon Jean-Noël Barrot, le ministre démissionnaire des Affaires étrangères. On retrouve à New York à l'ONU Louise Baudet. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Et pourtant, Louise, Emmanuel Macron n'a pas toujours été en première ligne pour défendre la cause palestinienne.
Oui, rien ne prédisposait le chef de l'État à tenir 40 ans plus tard la promesse faite par François Mitterrand de reconnaître l'État de Palestine. Ce qu'il qualifie désormais de devoir moral et d'exigence politique s'est peu à peu imposé à lui. Quand il arrive à l'Élysée en 2017, Emmanuel Macron est surtout admiratif de la modernité de l'État d'Israël. Le promoteur de la Startup Nation est loin de placer la cause palestinienne au rang de priorité géopolitique. Et au lendemain des attaques du 7 octobre, il est immédiatement au premier rang pour soutenir Israël. Sa proposition de coalition internationale contre le Hamas, sur l'exemple de celle montée contre l'organisation État islamique, apparaît en rupture avec la politique arabe de la France, au point de susciter un malaise parmi les diplomates français. L'intensification de la riposte israélienne à Gaza l'incite néanmoins à réclamer très tôt un cessez-le-feu et sa condamnation des opérations israéliennes va crescendo. L'idée d'une reconnaissance de l'État de Palestine comme levier politique mûri, l'Élysée présente comme décision décisive une visite à Al-Arish en avril, à Al-Arish avant-poste égyptien où s'empile l'aide humanitaire et où il rencontre des blessés palestiniens. C'est dans l'avion retour que le président confirme qu'il pourrait franchir le pas autour de l'été, conditionnant alors cette reconnaissance à la libération des otages et à la démilitarisation du Hamas. Condition levée au cœur de l'été, face au désastre humanitaire, Emmanuel Macron a décidé d'accélérer. Il confirme qu'il procédera à la reconnaissance en septembre à l'ONU, au risque assumé de tendre comme jamais les relations avec Israël.
Louise Baudet, envoyée spéciale de France Culture aux Nations Unies à New York avec Benjamin Reyes pour les moyens techniques. Alors, pour saluer l'événement de cette reconnaissance française de l'État de Palestine, une cinquantaine de communes françaises ont choisi de hisser le drapeau palestinien au fronton de leur mairie, répondant ainsi à l'appel du patron du Parti Socialiste, Olivier Faure. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait pourtant interdit ce pavoisement au nom de la neutralité du service public. Le ministre qui invoquait un risque de troubles graves à l'ordre public. Adrien Toffolet, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
52 communes ont bravé cette interdiction, toutes de gauche et principalement communistes, Adrien.
Oui, là où l'ancrage du PCF est encore fort, principalement des communes de région parisienne donc, Bagneux-Malakoff et Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, Mitry-Mory en Seine-et-Marne, La Courneuve en Seine-Saint-Denis, Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, auquel on peut ajouter en région Saran dans le Loiret, Tarnos dans les Landes ou encore Sandras dans le Gard, avec des maires qui s'inscrivent dans la tradition du Parti communiste français, qui entretient des liens avec l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, depuis les années 80. Pour le reste des concernés, des mairies d'Hivergo, Nanterre, Corbeil-Essonne, écologistes, Arcueil, Tours et Lyon, l'une des rares mairies LFI, Grabel dans l'Hérault, et puis des socialistes qui sont finalement peu à avoir répondu à l'appel d'Olivier Faure, Nantes, Rennes, Saint-Denis en région parisienne ou encore Creil dans l'Oise. Même si d'autres prévoient encore de pavoiser leur mairie d'ici demain, sur près de 34 900 communes en France, c'est un pourcentage très faible qui aura participé à cette initiative. À cela plusieurs raisons, la menace de devoir aller en justice et de devoir payer des astreinte journalière, la peur également, à quelques mois des municipales, de devoir justifier son choix de pavoiser ou non sa mairie, et puis parce que la question palestinienne divise, avec un clivage gauche-droite très net, on vient de le voir, des divisions au sein de la gauche également, l'aile du PS qui se refuse à un alignement avec LFI sur la question palestinienne, le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, qui a fait le choix d'afficher les drapeaux de la France, de l'Union Européenne, de l'ONU, d'Israël et de la paix, drapeaux palestiniens et israéliens à Paris également. Projeté hier soir sur la Tour Eiffel, un « et en même temps dégoûtant » a d'ailleurs commenté tout à l'heure le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon.
Adrien Toffolet, merci. En Italie, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays aujourd'hui pour, je cite, « dénoncer le génocide à Gaza ». Ils étaient plus de 50 000 à Milan, selon les organisateurs. Des manifestants ont affronté les forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. À Rome, la police a compté 20 000 personnes dans les rues. Contrairement à la France d'Emmanuel Macron, l'Italie de Giorgia Meloni n'envisage pas pour l'instant de reconnaître l'État de Palestine, même si la première ministre italienne a évoqué à plusieurs reprises sa préoccupation face à l'offensive israélienne. La Commission européenne sait qu'elle est attendue au tournant sur sa réforme de la politique agricole commune, la fameuse PAC. Et pour la première fois aujourd'hui, elle a détaillé son projet aux ministres de l'agriculture des 27 États membres. Des ministres bien souvent sous la pression de leurs syndicats agricoles qui menacent de redescendre dans la rue s'ils ne sont pas écoutés. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Correspondant permanent à Bruxelles, Fabien, quel accueil les 27 ont-ils réservé au projet de nouvelle PAC défendu par la Commission européenne ?
Un accueil assez circonspect, disons, la tonalité générale, c'est qu'ils attendent pour voir. Ils sont surtout venus au Conseil agriculture aujourd'hui avec beaucoup de questions. D'abord sur l'enveloppe de 300 milliards d'euros promise sur 7 ans pour continuer à soutenir les revenus des agriculteurs. La Commission européenne a beau promettre que cette somme sera sanctuarisée, ils veulent obtenir des garanties là-dessus. Et puis, il y a toutes les autres dépenses qui entraient jusqu'à présent dans le giron de la PAC, les aides aux régions rurales pour leur permettre d'attirer de jeunes agriculteurs ou encore pour y soutenir l'innovation agricole. Ces sommes ne font plus partie dans la nouvelle architecture prévue pour 2028 de la politique agricole commune. Elles sont reversées dans un fonds plus large consacré aux aides aux régions, une enveloppe qui sera à la main des États membres. Certains pays comme la France veulent s'assurer qu'il n'y aura pas de dumping, de compétition déloyale à coup de subsides distribués par des pays voisins. Pourquoi pas un plafonnement des montants dépensés dans ce cadre-là, demandent certains. Les débats sont maintenant lancés. La Commission européenne se donne 2 ans pour aboutir à un accord avec les États membres.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. En Allemagne, la police enquête sur un possible motif politique après la découverte de câbles sectionnés sur une voie ferrée dans l'ouest du pays. L'Allemagne particulièrement vigilante face à la multiplication des actes de sabotage attribués à la Russie. La police de Cologne a déclaré dans un communiqué que les câbles avaient été sectionnés pendant la nuit de dimanche à lundi, provoquant d'importantes perturbations du transport ferroviaire régional. Elle a ajouté qu'un motif politique ne pouvait être exclu à ce stade. En France, Sébastien Lecornu a entamé aujourd'hui une nouvelle semaine de consultations pour former son gouvernement, avec en point d'orgue mercredi la réception de l'intersyndicale à Matignon après la journée d'action du 18 septembre. Au cœur du débat pour renflouer les caisses de l'État, il y a 2 sujets qui agitent la sphère économique, la taxe Zuckmann sur les plus hauts patrimoines et les aides publiques aux entreprises. Il y a quelques semaines, un rapport sénatorial avait chiffré à 211 milliards d'euros le montant de ces aides attribuées sans condition. Les patrons du MEDEF refusent de remettre en cause le caractère inconditionnel de ce soutien de l'État, ce qui n'est pas le cas du CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants, un mouvement qui regroupe 6000 chefs d'entreprise. Wafia Kenich, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Le président du CJD, Mathieu Heitzer, juge nécessaire de mettre des conditions à ces aides publiques aux entreprises, une mesure de bon sens selon lui.
Oui, car cet argent public doit servir selon lui à des entreprises qui en ont véritablement besoin, les TPE et les PME, mais dans les faits, toutes les entreprises, y compris les grands groupes, bénéficient de ces aides. Une hérésie, selon Michel Heitzer.
Je pense que c'est complètement aberrant que de l'argent public profite à des actionnaires dont les entreprises ensuite licencient ou des entreprises délocalisent. Dans les TPE-PME, je peux vous garantir que les aides, elles sont utiles parce qu'elles permettent de créer de l'emploi, là où les grands groupes utilisent certains mécanismes pour optimiser leur fiscalité. Et là, ça n'est pas pensable aujourd'hui. Nous souhaitons être mis à la table pour discuter de comment simplifier tout ça, comment responsabiliser les entreprises pour qu'encore une fois, l'argent public serve à l'intérêt général.
Pour Antoine Jacquier, dirigeant d'une PME de 6 salariés, ces aides sont par ailleurs difficiles à obtenir pour les plus petites boîtes qui en ont pourtant le plus besoin.
Nous, sur des petites entreprises, on va avoir des seuils de chiffre d'affaires qu'on va pas remplir, par exemple, et qui vont dire « non, c'est pas pour vous », ou tout simplement, on n'a pas le bon fléchage. Moi, je peux pas dédier un poste dans mon entreprise pour une personne qui aille recenser, déjà dans un premier temps, étudier les dossiers, même préparer les dossiers. Ça, on n'a pas le même accès à l'information, et que ça demande, dans tous les cas, beaucoup de connaissances, de compétences, de réseaux pour arriver à accéder à la bonne information.
Dans son rapport sur les aides publiques aux entreprises, le Sénat dénombrait pas moins de 2200 dispositifs de l'argent versé sans quasiment aucun contrôle régulier pour les évaluer.
Explication signée Wafia Kenich. À 6 mois des élections municipales, Gaël Perdriau joue son avenir politique devant le tribunal judiciaire de Lyon. Le maire de Saint-Étienne est jugé pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics. La justice le soupçonne d'avoir fait chanter un rival politique avec une vidéo intime. En 2015, l'ancien premier adjoint Gilles Artigue avait été filmé à son insu avec un prostitué. Gaël Perdriau rejette ces accusations révélé par Mediapart, exclu de son parti Les Républicains. Il a toujours refusé de démissionner. Le tribunal a visionné aujourd'hui la sextape, la vidéo intime au cœur de l'affaire, et a décortiqué point par point le piège tendu au premier adjoint de la ville, Mathilde Imberti.
5 heures à la barre sous le feu des questions. Samy Khefi est sommé de tout préciser. Lui qui a fait tourner la sextape en janvier 2015 dans un hôtel parisien, filmé à son insu la victime Gilles Artigue avec un prostitué. L'ancien adjoint qui d'emblée s'excuse pour des actes graves et inadmissibles qui, dit-il, abîment le statut de l'élu. À l'entendre, il a fait chanter le rival centriste du maire pour être investi aux élections législatives de 2017 avec le soutien du centre et celui du maire à droite. Le tribunal, après la sextape diffusée à huis clos ce matin, visionne cet après-midi la seconde vidéo tournée par Samy Khefi lorsqu'il dévoile le stratagème à un Gilles Artigue interloqué. « Vous vous rendez compte, s'offusque l'homme piégé, vous allez détruire une famille. Comment peut-on faire une chose pareille ?» Ça s'appelle une assurance vie politique, répond Sami Khéfi, qui n'obtiendra pour des raisons de politique nationale jamais la fameuse investiture. C'était un fiasco, reconnaît-il aujourd'hui, lui qui ne charge jamais le maire de Saint-Étienne. Même s'il l'admet, je n'ai pas d'éléments permettant de dire qu'il était au courant, mais son directeur de cabinet n'aurait jamais agi de la sorte sans son aval. Gaël Perdriot, maire toujours en poste 3 ans après l'éclatement du scandale et qui nie toute implication, sera entendu demain par un tribunal bien décidé à analyser tous les rouages de cette affaire hors du commun.
Mathilde Imberti depuis le tribunal judiciaire de Lyon. Le procès de Gaël Perdriot et des 7 autres prévenus se tient jusqu'à vendredi. Des rues inondées, des routes et des autoroutes coupées et 8000 foyers privés d'électricité encore ce matin dans le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Des inondations à Avignon, Salon de Provence, Toulon ou encore Marseille. Conséquence des pluies diluviennes qui ont touché le sud-est de la France hier soir. Au lendemain de ces violents orages, les habitants constatent les dégâts comme à Lestac, à l'extrémité nord de Marseille. Un quartier déjà meurtri par un incendie cet été et qui s'est réveillé dans la boue ce matin. C'est un reportage de Mathilde Vinceneuve.
C'est un torrent d'eau boueuse qui a ruisselé des collines et dévalé cette rue de Lestac. Un torrent noir de cendres parce que la végétation carbonisée en juillet n'a rien pu empêcher, explique Annie, une habitante.
Des dégâts partout, hein, des maisons inondées, de la boue, en plus mêlée aux cendres suite aux incendies de cet été. Il n'y a plus de végétation qui retient, donc c'est affreux, c'est affreux. Moi ça va, mais hier soir c'était l'apocalypse. Et l'eau, la boue et les cendres, ce noir, voilà, cette boue noire.
De la boue noire de cendres, il y en a partout dans le jardin de Nicole. Elle habite un vallon où plusieurs maisons ont brûlé en juillet et elle redoutait ces ruissellements à l'automne.
Ça a coulé en cascade sur la falaise du haut. Toutes les cendres sont venues sur le devant de la maison et sont rentrées. C'est noir, noir, noir et ça a coulé. On avait un lac devant la maison, voilà, on avait un lac. Depuis l'incendie du 8 juillet, il n'y a pas plu, ou très peu. Et en fait, on s'est dit, le jour où il va pleuvoir sous forme d'averse, effectivement, ça va ruisseler. Et là, ce qu'on craint énormément, ce sont les chutes de pierre maintenant. Puisqu'on est en falaise, on craint les grosses chutes de pierre. Voilà, quoi, on n'en finit plus.
Armés de pelles, les riverains nettoient.
C'est le courage et l'huile de coude pour tout déblayer.
Ils tentent aussi de démarrer les voitures bloquées dans la boue.
Bon, la voiture marche.
Catherine et Patrick ont vu de l'eau envahir leur jardin et leur salon.
Ça a forcé la porte.
Ça a duré un quart d'heure. Hein.
Tout a été submergé en un quart d'heure.
Un peu plus bas dans le village, les commerces sont fermés. Impossible d'ouvrir les rideaux métalliques tant que l'électricité n'est pas revenue.
Ces intempéries ont fait une victime en Bretagne. Une femme de 55 ans morte noyée dans son véhicule à Ploumagoire, dans les Côtes d'Armor. Elle s'était engagée ce matin sur une route inondée avant de se retrouver bloquée dans sa voiture. C'est le ministère de la Culture qui l'affirme, le premier déménagement de la tapisserie de Bayeux s'est déroulé sans accroc la semaine dernière. La broderie du XIe siècle, qui mesure plus de 68 mètres et pèse 350 kilos, n'avait pas quitté sa vitrine depuis 40 ans. Elle a été acheminée dans un autre lieu de conservation à Bayeux, un lieu tenu secret. Rappelons que la tapisserie doit être prêtée l'an prochain au British Museum à Londres, selon la volonté d'Emmanuel Macron. Pierre Ropper, bonsoir.
Bonsoir.
Ce prêt inquiète de nombreux défenseurs du patrimoine qui redoutent des dommages irréversibles sur la tapisserie. Alors pour tenter de les rassurer, les responsables du projet ont défendu aujourd'hui la faisabilité du déménagement, tout en annonçant une nouvelle étude, Pierre.
Oui, la bonne nouvelle, c'est effectivement que ce premier déménagement s'est bien déroulé. 105 personnes se sont relayées pour déplacer la tapisserie. Pour cela, elles ont prolongé le rail auquel elle était suspendue pour l'acheminer jusque sur une trentaine de paravents à roulettes qui ont permis ensuite de replier la tapisserie sur elle-même. Mais ce qui inquiète dans ce déménagement, ce n'est pas tant cette première partie nécessaire pour permettre les travaux du musée de la tapisserie de Bayeux que la suite des opérations, car la broderie vieille de près d'un millénaire risque d'être dégradée par les vibrations d'un voyage jusqu'à Londres. Alors pour rassurer, dans un souci de transparence, les études déjà réalisées sur le sujet au cours des dernières années ont été rendues publiques cet après-midi et un cahier des charges va également être mis en place pour un test à blanc de la faisabilité du voyage, comme l'a expliqué Philippe Bélaval, le chargé de mission du président de la République pour le prêt au British Museum.
Le transfert vers Londres est un transfert beaucoup plus long et donc la question notamment des vibrations est particulièrement stratégique. Et évidemment, la confection même de la caisse de transport différente de la caisse de conservation devra tenir compte de l'ensemble des contraintes qui seront dégagées par cette étude.
Reste donc à attendre le résultat de ce test à blanc prévu pour janvier 2026 avant un possible voyage vers l'Angleterre en juillet prochain. Mais si les résultats de ce test ne sont pas concluants, le prêt sera-t-il maintenu ? Du côté du ministère, on botte en touche et on estime qu'il ne faut pas se placer d'emblée dans l'hypothèse d'un résultat négatif, un peu comme s'il était impossible d'annuler le prêt et au risque de se prendre les pieds dans la tapisserie.
Merci Pierre Ropert. Le temps demain, l'automne s'installe pour quelques jours. Fraîcheur et humidité au programme sur la plupart des régions. Avec le retour de la neige sur les Alpes vers 2000 mètres d'altitude, le soleil devrait s'imposer sur le pourtour méditerranéen. Les températures minimales iront de 6 à 15 degrés du nord au sud. L'après-midi, il fera entre 10 et 24 degrés. C'est dans le Grand Est qu'il fera le plus froid. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique Ludovic Auger.